Ce que vous allez entendre est un choix personnel de texte de Shulamit Firestone, traduit de l'anglais par Émilie Noteris. Ils ont été publiés dans le recueil intitulé « Zone morte » en 2020 par les éditions Brook. L'heure du coucher est le meilleur moment de la journée. Lorsque Holly fut emmenée de force à l'hôpital, tout ce qu'elle voulait c'était s'effondrer, c'est-à-dire dormir tout le jour et toute la nuit pour échapper à l'emprisonnement. Bien que cela semblât être une bonne solution pendant plusieurs semaines, le jour vint où son corps ne pouvait plus hiberner. Le sommeil ne lui faisait plus aucun bien. Mais il n'y avait toujours aucune raison de se lever et elle demeurait dans un état de somnolence permanente. Elle essayait de s'entraîner à ne pas dormir pendant la journée, puisqu'il n'y avait rien de pire que d'être piégée après l'extinction des feux, dans l'impatience du réveil. C'était difficile. Il n'y avait pas grand-chose à faire dans ce service psychiatrique et nulle part d'autre où aller que dans son lit. Lorsqu'elle manquait une nuit de sommeil chez elle, qu'elle avait dormi toute la journée, était restée éveillée jusqu'à l'aurore et s'autorisait à dormir jusqu'à midi, puis de plus en plus tard, 15h, 17h, elle attendait ce jour bienheureux où elle serait capable de dormir 24h et de se réveiller à 9h pour initier un nouveau cycle de sommeil. Ou, ayant échoué, endurer 24h sans sommeil aucun, ou jusqu'à ce qu'elle soit tellement morte de fatigue qu'elle s'effondre dans son lit. L'hôpital n'autorisait pas une telle liberté dans l'emploi du temps. Vous étiez réveillé à 7h, puis la fréquence des repas s'enchaînait, sans compter les constantes interruptions et le programme d'activités pour lesquels vous deviez quitter votre chambre ou être dispensé pour maladie. Le problème était que maintenant que son cycle d'hibernation était temporairement épuisé, elle ne pouvait pas s'endormir, même pour une heure qui se trouvait être libre. Pour cela, elle devait être assoiffée de sommeil, et elle en était au contraire repue. Elle avait de plus en plus de mal à dormir dans la journée, tant elle était effrayée à l'idée de ne pas être fatiguée à l'heure de l'extinction des feux. Même avec des somnifères, elle ne pouvait pas dormir la nuit non plus. Et elle avait peur des somnifères, la tivane était aussi addictive que le valium, et elle ne voulait pas quitter l'hôpital avec cette habitude qui de plus nécessitait une prescription. C'est ainsi qu'elle finit insomniaque, sur la liste d'attente de l'aile de l'hôpital psychiatrique dédiée aux troubles du sommeil. Le réalisateur turc. Il se leva immédiatement pour quitter le service. Sauvage, séduisant bien qu'ayant une mauvaise peau et affligé d'une bedaine de cinquantenaire, il n'appartenait pas à ce service rempli d'adolescentes et de vieilles dames. On pouvait se demander s'il arriverait à retrouver le chemin de la sortie et pourquoi il s'était retrouvé là en premier lieu. Il m'attirait, je peux vous l'affirmer. Je passais en revue ma silhouette perdue et mes cheveux qui avaient eu leur moment de gloire, je savais que j'avais désormais l'air insipide. Je croyais que si j'arrivais à me montrer prévenante, nous pourrions devenir amis. Je découvris qu'il s'agissait d'un réalisateur turc qui avait tenté de mettre fin à ses jours en s'intoxiquant au monoxyde de carbone provenant d'un poêle. Il bénéficiait de bourses émanant du City College et d'autres lieux affectés au domaine de l'enseignement. J'eus enfin la chance de lui parler. Une fois qu'il fut contraint à rester indéfiniment dans ce service, je me présentai à lui, porteuse d'informations utiles. L'unique manière de sortir rapidement est de bénéficier de l'assistance de plusieurs personnes à l'extérieur. Faites en sorte que quelqu'un ou quelqu'une cherche à vous contacter régulièrement, vous réclame pour les besoins d'un tournage, invoque la perte de temps et d'argent que cela représente. Il s'avéra qu'il avait une petite amie, partenaire idéal pour cette opération. Merci. Comment puis-je tuer le temps en attendant ? Je partageais avec lui mon grand secret. Tu déambules. Tu veux dire se promener ? Il n'y a nulle part où aller. C'est pour cela qu'il faut pratiquer sans cesse. Tu couvres les couloirs d'un bout à l'autre, même lorsqu'ils sont occupés. Tu peux essayer de compter tes pas, ou de te faire accompagner. Il me regarda comme si j'étais folle, mais les jours suivants, ainsi que je l'avais soupçonné, l'ennui lui était devenu tellement insupportable qu'il se sentait prêt à tout pour y mettre un terme. Malheureusement pour moi, il ne me choisit pas comme partenaire de promenade, mais plutôt une ravissante jeune chinoise qui m'était particulièrement antipathique. Il s'agissait d'une sainte nitouche ne semblant souffrir d'aucune affection mentale, elle était simplement SDF. Yel parcourait ensemble les couloirs en devisant, l'air naturel bien que faisant du surplace. Mon conseil de maintenir une pression venant de l'extérieur semblait également fonctionner et la roue tournait en sa faveur. Sa petite amie était venue lui rendre visite. Une grande, impressionnante et intense actrice, vêtue d'une cape. Pendant les activités destinées aux patientes, dont il fallait s'acquitter avant d'être libérée, je l'observais flatter les thérapeutes et se les mettre dans la poche. Comptant les jours qui le séparaient de sa sortie. Je tentais de nouveau une approche avant son départ. J'avais oublié mon carnet de chèques dans mon appartement qui était proche du sien. Il me serait de toute façon interdit de quitter le service puisque mon internement n'était pas volontaire et que je risquais de ne jamais revenir. Je n'avais aucune amie à qui demander un service et aucun moyen de payer mon loyer. Un matin, vers 6 heures, je me tourmentais à l'idée d'aller lui demander de se rendre chez moi. L'urgence semblait dépasser la simple préoccupation liée au loyer. J'avais peur de ne plus jamais le revoir. Je me faufilais dans sa chambre et l'observais dormir un peu. Il semblait grand et imposant, une figure maritale par excellence. Je m'imaginais me réveiller quotidiennement aux côtés de cette masse. Je ne réussis pas à lui demander cette faveur. C'était au-delà de mes forces. Je le revis une fois dans la rue, il me dit à peine bonjour. Puis une autre fois à un vernissage à West Bath, accompagné d'une impressionnante jeune femme, la même ou une autre, et il ne me salua pas davantage. Mais je l'avais vu très clairement donner son numéro à la chinoise avec qui il parcourait les couloirs en suivant mon excellent conseil. Passable, pas présentable. Elle se souvenait de l'époque ayant précédé sa maladie. Lorsque s'habiller était un défi, à quel point il était bon de se sentir bien habillée et d'être sûre de son apparence. Elle avait perdu son style à l'hôpital. Cela faisait terriblement la différence dans la manière dont elle était à présent reçue et celle avec laquelle on se détournait d'elle dans la rue après un premier regard. La lente remontée, la tentative de masquer la rigidité de son allure, la stupide salivation médicamenteuse sur son visage. Raison pour laquelle les personnes mentalement handicapées avaient toujours l'air insipides en groupe, ayant trop lutté pour avoir l'air normal, passé inaperçu. Cet aplomb minimum nécessaire pour se détacher de la foule était derrière elle. Paralysie émotionnelle. Elle était incapable de faire les courses en sortant de l'hôpital. La surabondance de biens l'avait toujours laissée perplexe, mais il y avait plus encore. Une liste de courses n'avait pas davantage d'utilité. Elle abandonnait son caddie au beau milieu et s'enfuyait. Ses étagères étaient garnies de produits manquants qu'elle avait failli acheter. Même lorsqu'elle réussissait à conclure un achat, elle rentrait insatisfaite de son choix. Sélectionner une simple carte d'anniversaire pour ses proches, de plus en plus lointaine, la mettait à l'agonie. On lui rappela ses récits de soldats, déchirés par la guerre, revenus après des années passées dans l'armée, incapables de prendre la moindre décision. L'hôpital provoquait cela. Le menu était préétabli, mais elle avait du mal à choisir parmi un faible spectre et était heureuse d'être dispensée de ce simulacre, heureuse que la même chose soit chaque jour proposée à tous et toutes. Avec quelques variantes pour le pain et le fromage, parfois un sandwich grillé au fromage, d'autres des macaronis au fromage, et invariablement des cuisses de poulet pour le dîner. Elle s'était habituée à cette routine et se sentait flouée dans son repas si les choses venaient à changer. De manière similaire, commander un déodorant à la boutique de l'hôpital était chose compliquée, tout comme choisir le chewing-gum substitué aux cigarettes interdites s'avérait problématique. Elle recevait peu de visites, et personne ne lui apportait rien de vraiment nécessaire, si ce n'est du bazar qui venait encombrer les deux ou trois tiroirs où elle avait l'habitude de conserver ses provisions de literie supplémentaires. Elle ne possédait pas même de stylo ni de crayon décent. Son indécision était atroce. Aussitôt qu'elle voyait naître en elle un élan, elle était traversée par une impulsion contraire, elle se contredisait. Elle se voyait agir au ralenti, mais était incapable d'éviter cette situation. Ou alors elle était confrontée à tellement d'options relatives aux tâches à accomplir qu'elle ne pouvait en retenir aucune. Elle était tellement incapable de changer de vitesse qu'elle ne passait jamais la première. Elle était paralysée dans l'inaction et s'en remettait aux autres pour régenter sa vie ou faire carrément les choses à sa place. Son incapacité à initier le moindre mouvement passait pour une extrême paresse. « Inertie est mon nom », s'entendait-elle répondre à son employé. Cette paralysie était têtue et persista non seulement des mois, mais des années après son séjour en hôpital. Elle avait besoin d'être maternée, mais personne n'était disponible pour cela et rien n'avançait. Des piles de papier s'entassaient, mais l'archivage la terrifiait et elle ne possédait pas de boîte d'archives. Elle était comme aveugle, palpant des monceaux informes à la recherche d'objets à moitié oubliés. L'empilement s'appliquait également aux vêtements. Elle avait perdu tout sens météorologique et était toujours vêtue de manière inappropriée. Elle ne pouvait pas lire. Elle ne pouvait pas écrire. Elle lisait l'enfer de Dante en arrivant pour la première fois à l'hôpital, se souvenait-elle, à bon rythme. Mais en sortant, elle ne pouvait pas même se concentrer sur un article de mode. Les mots ricochaient sur son front comme sur du métal. Elle n'arrivait pas à se soucier du moindre contenu écrit, profond comme léger. Pourquoi ? Pourquoi lire cela ? Pourquoi l'absorber ? Cette incapacité s'appliquait également aux films, aux cassettes vidéo, ainsi qu'aux ordinateurs et aux téléphones. Les dernières avancées technologiques la laissaient de marbre et elle pouvait à peine actionner la radio ou programmer le magnétoscope. Cela laissait un gouffre dans son emploi du temps, autrefois occupé par la lecture, l'écriture et le cinéma. Elle ne pouvait pas davantage sortir, elle était trop vieille, et n'avait de toute façon pas d'argent. Ses vieilles tendances à l'isolement et à la mise à l'écart de toute forme de distraction demeurèrent intactes, mais elle n'avait plus à se tenir isolée de rien. De temps en temps, elle se forçait à écrire, mais l'ancienne excitation créatrice ne refaisait plus surface, ou, le cas échéant, elle flanchait le lendemain matin suivant sa médicamentation nocturne. Une sorte de baise à sec, chaque mot lui était douloureux et laborieux. Mais comme pour le sexe, et même la masturbation, l'initiative lui faisait gravement défaut. Son état général d'indécision se couplait d'une impatience. Attendre par exemple les médecins, les infirmières ou les employés dans l'aile externe la mettait à l'agonie. Elle basculait d'une jambe sur l'autre comme prise d'une envie pressante. Elle se donnait des petits coups sur le visage et le corps jusqu'à ce que le personnel la considère comme folle. Il lui était pratiquement impossible de se tenir tranquille dans la salle d'attente d'un ou d'une médecin, dans un salon de beauté ou pendant un office religieux, de faire la queue au bureau de poste. Quant au trajet, mieux valait faire des croix dessus. Elle était incapable de lire, elle était trop nerveuse pour cela et ne pouvait pas davantage regarder la télévision. Elle adoptait de nouveau un comportement hospitalier. Paralysée pendant de longues heures, regardant le passage des aiguilles de la montre qui la séparait de l'heure du déjeuner, du coucher ou du réveil. Elle paniquait parfois à l'idée qu'il lui restait encore 30 années à tuer ainsi, avec de plus en plus de passages en institution, et le suicide n'était plus une option. Sans doute en raison des médicaments, son problème principal était qu'elle ne pouvait accorder son attention à rien. L'amour lui était devenu un sentiment étranger. Elle s'efforçait de rendre la vacuité de ses journées la plus confortable possible, tâchant de ne pas sombrer dans l'ennui et le désespoir le plus profond. Elle était lucide, mais le payait au prix fort. Elle reconnaissait parfois sur d'autres visages la joie, l'ambition ou diverses émotions dont elle pouvait conserver le souvenir de les avoir ressenties il y a longtemps de cela. Sa vie était ruinée, elle n'avait aucun plan de secours. Les décennies défilaient rapidement et ses cheveux devenaient gris. Elle n'attirait plus personne, homme ou femme. Elle se révulsait elle-même au sens le plus littéral du terme. Lorsqu'elle apprenait la mort de quelqu'un ou quelqu'une, elle espérait pouvoir changer de place avec la personne concernée. Laisser celle ou celui qui savait organiser sa vie et en profiter, bénéficier de sa santé physique mieux qu'elle ne savait le faire. Femme blanche, bien portante. Margaret se demandait si les choses ne pourraient jamais redevenir comme avant entre elles. Elle avait jeté un coup d'œil furtif au formulaire d'état de santé mentale que venait de remplir sa psy dans le cadre de sa formation professionnelle VESID. Axe schizophrène, idées suicidaires, insuffisance du contrôle pulsionnel, autoviolence. Elle l'avait vu venir. Jugement et perception étaient uniquement assortis de notes allant d'acceptable à médiocre. Mémoire sélective. Mais c'est la case « apparence » qui la fit tressaillir. Femme blanche bien portante à dyskinésie tardive affectant le bras droit et la langue. Ne pouvait-elle pas la traiter de grosse et joufflue qu'on en finisse ? Dieu seul savait que la nourriture n'y était pour rien. Il y avait pénurie. Quant à la dyskinésie tardive, il s'agissait d'une paralysie qu'elle n'essayait même plus de contrôler. Sa langue était en coton et elle avait du mal à articuler. Elle répandait parfois le jus d'orange du petit-déjeuner sur la table en manquant le verre. Elle avait dû arrêter de fumer puisque le manque de contrôle qu'elle exerçait sur les mouvements de sa main était devenu dangereux. Elle ne savait pratiquement plus écrire sur le clavier, dyskinésie tardive ou non. Elle était une mauvaise candidate pour la formation professionnelle. Plus grave encore que de réaliser tout cela était son manque d'amour. Elle laissa le formulaire glisser sur ses genoux. Elle avait imaginé d'une certaine manière que sa psy l'aimait, lorsque personne d'autre n'en était capable. Où avait-elle bien pu pêcher cette idée ? Une professionnelle rémunérée. Le formulaire était tellement froid.